Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Nous vous proposons depuis quelques semaines une émission quotidienne consacrée aux lettres des pères du désert. Nous avons déjà longuement évoqué l'expérience de ces véritables athlètes du Christ, que sont le grand Antoine du désert, Saint Jean Climac, Saint Silouane de Russie, Mata Abel-Masquine et Jean Macaire bien sûr. Nous avons, grâce à ces géants de la spiritualité orientale, nous avons retrouvé nos racines communes avec nos frères orthodoxes, dont la mystique évolue essentiellement autour de la paix de l'âme et de la prière perpétuelle. Nous poursuivons aujourd'hui nos émissions avec Saint Séraphim de Sarov et nous avons choisi pour les prochaines émissions de vous parler de son approche du Saint-Esprit. Séraphim guérit un malade dans son corps et dans son âme par la puissance de la foi de ce malade. Séraphim de Sarov était-il devenu un de ces hommes uniques dans une génération, d'après les dires d'Isaac le Syrien, qui portés par la prière perpétuelle, fruit du Saint-Esprit, atteignent au sommet de la spiritualité chrétienne, homme céleste et ange terrestre, élu de la Vierge, avant de quitter la terre, lui restait-il un message à diffuser? Oui. Celui qu'il choisit pour son porte-parole n'était ni moine, ni clerc, mais un jeune homme, noble des environs, un grand malade. Fils unique ayant perdu son père de bonne heure, Nicolas Motovilov fit des études universitaires, vécut comme on vit dans le monde, pécha et souffrit. Atteint d'une maladie inguérissable à l'époque, probablement une sclérose en plaques, il consulta en vain, d'après ses propres dires, des allopathes, des homéopathes et des chirurgiens renommés en Russie comme à l'étranger. Désespéré, il se fit conduire à Sarov pour demander les prières du célèbre starets Séraphim. Le 9 septembre, on me conduisit, dit-il, dans son proche désert, près de la source. Il était en conversation avec une multitude de gens qui l'entouraient. Quatre de mes hommes me portaient dans leurs bras, le cinquième soutenait ma tête. Ils m'assirent près d'un grand et très gros sapin qu'on voit encore au bord de la rivière Sarovka, dans le pré où le starets d'habitude fait ses foins. À ma prière de me guérir, il me répondit « Je ne suis pas médecin. C'est à un médecin qu'on doit s'adresser quand on veut être guéri d'une maladie quelconque. » Le malheureux avoua ses échecs auprès du corps médical et dit que la grâce de Dieu, par l'entremise des prières du Starets, restait son seul espoir. Il me posa une question, continue Motovilov. Croyez-vous en notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il est Dieu homme, et en sa très sainte mère, qu'elle est toujours vierge? Je répondis, je crois. Et croyez-vous, demanda-t-il encore, que le Seigneur, qui dans le temps, par une seule parole, un seul geste, guérissait immédiatement les maladies des hommes, peut avec autant de facilité qu'auparavant venir en aide à ceux qui l'implorent, et que l'intercession de sa très sainte mère est toujours toute puissante, et qu'en vertu de cette intercession, notre Seigneur Jésus-Christ peut immédiatement et par une seule parole vous rendre la santé? Je répondis qu'en vérité, de tout mon cœur, de toute mon âme, je croyais. Autrement, je ne serais pas venu. Si vous croyez, dit-il, en guise de conclusion, vous êtes déjà guéri. Comment guéri ? Demandai-je. Quand mes gens et vous-même, vous me tenez par vos bras ? Non, dit-il, vous êtes complètement guéri. Tout votre corps, maintenant, est sain. Me sentant rempli d'une force nouvelle, je me mis à marcher, mais il m'arrêta. Ça suffit. Êtes-vous persuadé maintenant que le Seigneur vous a guéri en réalité et pour de bon ? Voyez quel miracle il a fait pour vous. Il a pardonné vos péchés et enlevé vos iniquités. Croyez donc en lui. Espérez en sa bonté. Aimez-le de tout votre cœur et remerciez la Reine des cieux pour son bienfait. Toutefois, affaibli comme vous l'êtes par 3 années de souffrance, ne marchez pas trop à la fois et veillez sur votre santé comme sur un don précieux de Dieu. Dieu a pardonné vos péchés et enlevé vos iniquités, a dit le Starets. Chez l'homme psychosomatique, les péchés et les maux physiques, la plupart du temps, ne font qu'un. En guérissant le paralytique, Jésus demandait aux pharisiens, « Quel est le plus facile à dire? Tes péchés te sont remis ou lève-toi et marche ?» Une chose est requise, la foi. Avec insistance, le père Séraphim posait la question à Mantourov comme à Molotilov. « Croyez-vous ?» Le miracle accompli, le Seigneur constatait « Ta foi t'a sauvé. » L'âme de Motovilov était donc malade comme son corps. Comment le père Séraphim le savait-il ? Le jeune homme s'était sans doute ouvert à lui durant les entretiens de la veille, mais il y avait plus. Un Starets possède la faculté de voir un homme tel qu'il est en réalité et non tel qu'il se croit ou a la prétention de se présenter. Nos vertus visibles mais irréelles nous empêchent de lutter contre nos péchés invisibles mais réels. Un confesseur superficiel et pressé se contente par acquis de conscience d'absoudre cette image stéréotypée et fallacieuse que lui présente son pénitent. Tandis qu'en vertu d'un don spécial, un Starets voit chaque être tel que Dieu le voit et cherche à l'aider à se libérer de ses entraves cachées. Compliqué, passionné, généreux et instable, Nicolas Motovilov n'avait ni la joyeuse candeur, ni la pure simplicité d'un Michel Mantourov. C'est lui pourtant que le Starets choisit. Guéri et plein de reconnaissance, il venait souvent voir son bienfaiteur, et c'est pendant une de ses visites, à la fin du mois de novembre 1831, un an environ avant la mort du Starets, qu'eut lieu l'entretien maintenant célèbre sur le but de la vie chrétienne que l'homme de Dieu destinait au monde entier et que Motovilov devait transmettre. Le but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a révélé, dit le grand Staretz, que depuis votre enfance, vous désiriez savoir quel était le but de la vie chrétienne, et que maintes fois, vous aviez interrogé à ce sujet des personnages, même assez haut placés, dans la hiérarchie de l'Église. En effet, dès l'âge de 12 ans, Motovilov avait été tourmenté par des inquiétudes de ce genre. Il n'en avait pourtant parlé pas du tout au Père Séraphim. La réponse qu'il reçut différait sensiblement de celle entendue jusqu'alors. Le but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit. L'acquisition du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, qui est-il au juste? La troisième personne de la Sainte Trinité. Non une force impersonnelle et impalpable, une personne à laquelle l'Église adresse ses prières. L'Esprit annonce le Messie, parle par les prophètes, inspire les Écritures. Il repose sur le Christ jusqu'à la fin de son ministère terrestre. Ressuscité, le Christ donne l'Esprit à l'Église. « Là où est l'Esprit, là est l'Église », dira saint Irénée de Lyon. En Occident, cette personne du Saint-Esprit, qui n'a pas de nom propre, a été oubliée à un tel point qu'au deuxième concile du Vatican, on a pu l'appeler ce grand méconnu, celui dont on ne sait comment parler et où les paroles sonnent creux. L'Orient n'a jamais cessé d'approfondir son mystère. Les docteurs de l'Église ont cherché à définir son rôle. Les hésychastes ont appelé pour féconder la prière du cœur. L'Église l'a invoqué pendant chaque Eucharistie, au moment de l'Épiclèse. Mais quel chrétien au XIXe siècle lui concédait-il une place particulière dans son existence de tous les jours? Comment l'acquisition? Demanda Motovilov, perplexe. Je ne comprends pas tout à fait. Il était en effet difficile de comprendre. Comment peut-on acquérir, s'approprier la troisième personne de la Sainte Trinité, et quel bénéfice l'homme en tirerait-il? Le Staretz explique. Le Saint-Esprit est donneur de grâce autant que don. C'est en ce sens qu'on peut l'acquérir, en s'emplissant de sa grâce, en le faisant demeurer en nous, en devenant des temples du Saint-Esprit. Toute vertu pratiquée au nom du Christ nous apporte la grâce du Saint-Esprit et la prière plus que toute autre chose. Mais Motovilov s'impatiente. « Père, dit-il, vous parlez toujours de l'acquisition de la grâce du Saint-Esprit comme un but de la vie chrétienne. Comment puis-je la reconnaître? Les bonnes actions sont visibles, mais comment l'Esprit-Saint peut-il être vu? Comment puis-je savoir si, oui ou non, il est avec moi? » La grande question est posée. Siméon, dit le nouveau théologien, mérita pleinement ce titre, captivé qu'il était par le mystère du Saint-Esprit habitant en nous et se manifestant sur les degrés supérieurs de la vie spirituelle comme lumière. Quelle est la nature de cette lumière divine? Est-ce une perception sensible ou intellectuelle? Dieu est lumière, dit saint Siméon, et il communique de sa clarté à ceux qui s'unissent à lui dans la mesure de leur purification. Au miracle, l'homme s'unit à Dieu spirituellement et corporellement parce que son âme ne se sépare pas de l'esprit, ni le corps ne se sépare de l'âme. Dieu entre en union avec l'homme entier. Nous ne parlons pas de choses que nous ignorons, affirmait Siméon, mais de ce qui nous est connu, nous rendons témoignage. Dieu est lumière, et ceux qu'il rend dignes de le voient comme lumière. Ceux qui l'ont reçu comme lumière, car la lumière de sa gloire précède sa face, et il est impossible qu'il apparaisse autrement que dans la lumière. Selon lui, il faut distinguer en Dieu son essence, totalement incognoscible et inaccessible, et ses énergies, débordement de la nature divine, s'écoulant éternellement de l'essence une de la Trinité et auquel l'homme peut avoir accès. Les pères appliquaient à ces énergies divines le nom de rayons de la divinité. Grégoire Palamas les appelait divinité tout court, lumière incréée ou grâce. C'est la lumière inaccessible où Dieu habite, d'après saint Paul. C'est la gloire dans laquelle Dieu apparaissait aux justes de l'Ancien Testament. C'est la lumière éternelle dont l'humanité du Christ était pénétrée et qui rendit sa divinité visible aux apôtres lors de la transfiguration. C'est la grâce incréée et déifiante, présage de la résurrection, partage des saints de l'Église, vivant dans l'union avec Dieu. Enfin, c'est le royaume des cieux, où les justes resplendiront comme le soleil. L'orgueil intellectuel, barrière à notre vision du Saint-Esprit, puis ensuite nous verrons la transfiguration de Séraphim. À la demande de Motovilov, comment le Saint-Esprit peut-il être vu? Comment puis-je savoir s'il est avec moi? Le Starets répondit, à l'époque où nous vivons, on est parvenu à une telle tiédeur de la foi, à une telle insensibilité, à l'égard de la communion avec Dieu, qu'on s'est éloigné presque totalement de la vraie vie chrétienne. Sous prétexte d'instruction, de science, nous nous sommes engagés dans une telle obscurité d'ignorance que nous trouvons inconcevable tout ce dont les anciens avaient une notion assez claire. Pouvoir parler entre eux des manifestations de Dieu aux hommes comme des choses connues de tous est nullement étrange. Mes pères, insistait Motovilov, comment puis-je connaître en moi la présence de la grâce du Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit que c'était fort simple, que vous faut-il de plus? Il me faut le comprendre mieux encore. Alors, écrit Motovilov, le père Séraphim me prit par les épaules et dit, nous sommes tous les deux dans la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi ne me regardes-tu pas? Je ne puis, père. Des foudres jaillissent de vos yeux. Votre visage est devenu plus lumineux que le soleil. N'ayez pas peur. Vous êtes devenu aussi lumineux que moi. Vous aussi, vous êtes à présent dans la plénitude de l'Esprit Saint. Autrement, vous n'auriez pas pu me voir. Pourquoi ne me regardez-vous pas dans les yeux? Osez me regarder sans crainte. Dieu est avec nous. » Je le regardais, et une peur encore plus grande s'empara de moi. Imaginez-vous un homme qui vous parle, sa face se trouvant comme au milieu d'un soleil de midi. Vous voyez le mouvement de ses lèvres, l'expression changeante de ses yeux. Vous entendez le son de sa voix, vous sentez ses mains, vous serrez les épaules, mais en même temps, vous n'apercevez ni ses mains, ni son corps, ni le vôtre, rien qu'une étincelante lumière se propageant tout autour, à une distance de plusieurs mètres, éclairant la neige qui recouvrait la prairie et tombait doucement sur le grand Staretz et sur moi-même. Comment décrire ce que j'éprouvais alors? Que sentez-vous? Demanda le Staretz. Le dialogue qui s'ensuit est extraordinaire. Motovilov est heureux, son âme, pleine de silence, est remplie de paix et de joie. Son corps, malgré le froid, se complaît dans une agréable chaleur. Il hume un délicieux parfum, le Staretz commente longuement tous ses états. « C'est ainsi que les choses doivent être », finit-il par dire. « La grâce divine, habitant au plus profond de nous, dans nos cœurs. Le royaume des cieux est en dedans de vous, enseigne le Seigneur. Par le royaume des cieux, il entend la grâce du Saint-Esprit. C'est l'état dans lequel nous sommes actuellement que le Sauveur avait en vue lorsqu'il promettait à ses disciples, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et que voit-il? La transfiguration dans la lumière taborique. Il me semble qu'à présent, vous n'allez plus m'interroger, ami de Dieu, sur la façon dont se manifeste dans l'homme la présence de la grâce de l'Esprit-Saint. Cette manifestation, vous en rappellerez-vous? Pour notre prochain rendez-vous, Séraphim de Sarov nous donnera sa vision de la parabole des vierges sages et des vierges folles. Et il nous dira que le but ultime de la vie chrétienne, c'est d'acquérir en nous l'Esprit Saint.
C'était les lectures des Pères du désert, une émission proposée par Hélène.